CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Qu'est-ce qui suit print?
Rien, c'est un truc pour aérer l'écran. Comme ça, les lignes ne seront pas trop rapprochées.
Ah, il s'agissait d'y penser.
Au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder Bye Bye? Non, monsieur!
Les enfants auront besoin d'une connaissance des ordinateurs dans le futur.
On le sait, la téléphonie cellulaire se développe à un rythme très rapide. De nouveaux appareils. Le premier permet à son utilisateur de faire ses appels strictement avec la voix. Et quant au deuxième, il n'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes.
Read, data et restore.
À vos ordres, chef.
Bon. Bienvenue et bonjour à cet autre épisode de Devant vos écrans, votre émission sur les ondes du CFAQ 88.3 qui vous fait un tour d'horizon de tout ce qui se passe devant vos écrans. Éric Laverdure au microphone en espérant que vous avez passé une excellente semaine, tout ça devant vos écrans. Vous avez passé bien du temps, vous avez peut-être découvert des nouveaux jeux, des nouvelles séries, des nouveaux films, qui sait, c'est de ça qu'on parle devant vos écrans. Aujourd'hui cependant, on va parler un petit peu plus politique. Et oui, on peut pas vraiment sortir la politique du gars, mais on peut sortir le gars de la politique. Alors c'est pour ça que je fais de la radio en ce moment, mais ça m'intéresse toujours de faire un tour d'horizon de la politique, mais toujours avec un point de vue technologique. Alors aujourd'hui, dans notre tour d'horizon techno et télévisuel, on s'intéresse aux campagnes étrangères sur les élections en Bolivie, mais également au Mexique et au Venezuela. Dans le même thème, je veux vous parler de ce changement approuvé par Mark Zuckerberg qui aurait réduit l'attraction des pages de gauche sur Facebook. On parle également de vos cookies et non pas des biscuits, mais bien vos petits pisteurs et de Google. On va également parler de Starlink, l'Internet de Elon Musk pour bientôt au Canada. Et finalement, on revient sur le reportage de la facture et des risques du socio-financement. Tout ça et encore plus devant vos écrans. Alors, on commence en Bolivie. Alors, comme plusieurs pays civilisés, oui, la Bolivie, un pays de l'Amérique latine du Sud, a tenu leurs élections dimanche dernier, le 18 octobre, pour être plus précis pour les gens qui nous écouteraient en balado-diffusion. Cette élection était attendue par la communauté internationale, oui, car elle permettrait enfin de savoir le choix du peuple bolivien pour leur avenir. Sans trop m'installer dans les questions politiques, la Bolivie fut frappée l'an dernier par un coup d'État où un gouvernement provisoire fut instauré et le chef de l'État, Evo Morales, fut envoyé en exil. On l'accusait notamment d'avoir fraudé les élections et la communauté internationale, avec l'aide de, comme d'habitude, les États-Unis en tête de file, n'était pas content de la victoire de ce socialiste. Un socialiste qui, oui, a réussi à faire des grands changements dans son pays, notamment dans les dernières décennies. Là, on peut y surétablir son pays sur la map, si on le dit en bon français. Il a su aussi réduire les inégalités entre les différentes populations de son pays. Alors, c'était de quoi qui était assez bien regardé au niveau des États-Unis, mais pas des États-Unis, mais en fait des États en général. On dit, ah, ben, regardez, la Bolivie, ça va bien, mais malheureusement, comme d'habitude, on n'est pas de la bonne couleur politique. On est un petit peu trop de la gauche pour les forces internationales. Alors, on décide, par le fait même, d'encourager un coup d'État. Ce coup d'État-là qui a vu, en fait, se placer sur l'avant-scène un parti un peu catholique de droite, un peu, là, on se rappelle, à l'investiture de l'ancienne présidente. On la voyait arriver avec une grosse Bible en disant, ben regardez, nous sommes une tête, nous sommes, en fait, un pays catholique, chrétien, tout ça un peu drôle venant d'un pays où ce que le tiers de la population est des indigènes, en fait. Alors, c'est des Premières Nations, des Autochtones de là-bas, et qui s'intègrent très bien, notamment grâce à Evo Morales, qui était issu, en fait, de cette communauté-là, qui était issu des travailleurs du cacao et tout ça. Alors, bref, c'était un populiste de gauche, et la population internationale n'a pas vraiment aimé ça. Puis par la suite, en fait, même les gens qui étaient là pendant le coup d'État, le gouvernement en place de Agnès Anna, ont comme décidé d'essayer de de marquer le parti de Evo Morales, le MAS, comme étant un parti à procurer des élections, ce qui veut dire qu'il n'aurait pas pu se représenter. Bref, plein de choses comme ça. Finalement, les gens sont sortis dans la rue, ont décidé autrement, et finalement, c'est le MAS qui a repris le pouvoir dimanche dernier, avec à sa tête Luis Arce. On le sait bien que M. Morales est présentement en exil, mais qui sait, il va peut-être revenir, étant donné que la situation est un petit peu plus positive de son côté. Alors, on le sait depuis quelque temps, et même de plus en plus fort depuis les élections de 2016 aux États-Unis, il est maintenant courant de voir apparaître des forces étrangères qui ont comme seul but de manipuler les réseaux sociaux pour espérer avoir, oui, un résultat aux élections positif pour leur agenda. En 2016, aux États-Unis, on parlait beaucoup de l'ingérence russe. Mais qu'en est-il de l'ingérence américaine dans les élections comme celle en Bolivie? Alors, c'est ce que nous a révélé en fait un article paru en septembre dernier dans le Washington Post et qui explique les liens entre les sociétés américaines et des publications sur Facebook pour changer les résultats des élections en Bolivie. Bref, on parle pas de changer, oui, des résultats, mais on parle d'encourager certains candidats, de décourager certains autres candidats, tout ça grâce au pouvoir des réseaux sociaux. Alors, en 2016, oui, on parlait aux États-Unis beaucoup de l'ingérence russe, mais il y a de l'ingérence qui se fait aussi par les États-Unis. Ils ne sont pas que des victimes. Ils sont parfois également des coupables. Alors, c'est un article qui m'a été référé. Oui, hein, je voudrais d'abord le remercier par Charles-Édouard. T'es un de mes anciens collègues de l'École de politique appliquée de Sherbrooke, de l'Université de Sherbrooke. Alors, je le salue et je le remercie de m'avoir envoyé cet article qui a permis, oui, de mettre un peu de beurre sur le pain de mon émission. Alors, en gros, l'article nous parle de la firme CLS Strategies qui est basée à Washington et qui se serait fait taper sur les doigts par Facebook en septembre pour avoir produit des campagnes de publicité ciblées dans 3 États en Amérique latine. Alors, on parle d'un autre État très problématique présentement, surtout au niveau encore d'un coup d'État manqué. On parle du Venezuela qui fut victime d'une genre de révolution des couleurs. Une révolution des couleurs, c'est quand on tente de changer les couleurs du parti qui est en place. Alors, on passe du rouge au bleu. Par exemple, ici, ce serait une révolution des couleurs. Bon, on voulait enlever les socialistes pour mettre encore des néolibéralistes, un peu comme on voit dans plein d'autres pays en Amérique du Sud. Et bref, ça n'a pas fonctionné. On se rappelle de Juan Guaido, qui avait l'opposant principal du pouvoir en place au Venezuela, qui avait fait une publication Facebook pour dire « Regardez, c'est moi le nouveau chef, mais ça marche pas comme ça. On peut pas déclarer sur Facebook de devenir un chef d'un pays. » Ça me fait penser beaucoup à Michael Scott dans The Office, qui ne fait que crier qu'il est en banqueroute pour pouvoir déclarer banqueroute. C'est pas comme ça que ça marche, mon petit Juan. Alors, sinon, on a aussi au Mexique, où est-ce que cette firme-là aurait frappé, et finalement, comme je le disais en introduction, en Bolivie. Alors, c'est le 1er septembre dernier que Facebook a annoncé la fermeture de 55 comptes, 42 pages et 36 comptes Instagram liés à la compagnie CLS Strategies qui ciblait la politique au Venezuela, en Bolivie et au Mexique. Le groupe a 3,6 millions de dollars en publicité dans les 3 pays. Une somme que les dirigeants de Facebook ont qualifiée de remarquable pour sa taille et reflétant ce qui se passe lorsque des acteurs aux poches profondes organisent une opération de désinformation. Les pages ont rassemblé plus de 500 000 abonnés, a déclaré Facebook. Alors, l'une des pages du groupe qui ont été fermées était quand même active en Bolivie et n'hésitait pas à publier de fausses nouvelles sur les fraudes électorales alléguées de Evo Morales. Et allant même jusqu'à taguer une nouvelle réelle. Alors, il y avait une publication quand même assez, on pourrait dire, correcte, qui publiait une nouvelle et cette page-là a dit que c'était des fake news. Mais en fait, c'était plutôt une contre-opération pour, oui, que la page soit prise au sérieux et que le média officiel ne soit pas pris au sérieux, ce qui était quand même assez problématique. C'était assez intéressant. Et surtout, que c'était pour promouvoir la présidente qui était là, qui était mise en place par le coup d'État, qui est, comme je vous le rappelle, un parti de droite très catholique dans un pays où le tiers de la population est indigène. Alors, c'est un peu bizarre de s'asseoir sur une Bible et de diriger comme ça. Mais ça, c'est mon opinion de ce côté-là. Alors, cet article et cette nouvelle nous permettent de mieux comprendre le champ de bataille qui est devenu les élections et les réseaux sociaux, même si Facebook tente de mitiger la situation dans les prochains sujets de mon émission. On prévoit le penchant politique du créateur de Facebook, parce que oui, on va en parler un petit peu plus tard, de Facebook qui se fait souvent taper sur les doigts étant donné sa position de quasi-monopole dans les côtés de l'information. On l'a vu même la semaine dernière, aussi même Twitter n'est pas à l'abri de ça, lorsque le New York Post a publié une nouvelle qui était, comment dire, on pourrait dire qu'il était négatif pour Joe Biden, qui faisait référence à son fils, qui a des photos assez, assez intéressantes d'Hunter Biden avec une pipe à crack dans la bouche. Bref, quelque chose de je sais pas. Moi, je trouvais ça assez... ça fait très vieille politique d'aller chercher des photos comme ça. Bref, et que le Twitter s'est mis, et Facebook s'est mis à ne pas pouvoir permettre le partage de ces publications-là en disant que c'était des fausses nouvelles ou que c'était des données acquises sous des mauvais dessins. Alors, on parle pas des dessins de vos nièces de 2 ans, là. Je parle des mauvaises idées. Alors, pour eux, ben n'importe quoi qui a été hacké, qui a été pris contre le vouloir d'une personne ou d'une entreprise ne pourrait pas être partagé sur Facebook ou sur Twitter, mais ce qui est un peu ironique parce que au final, WikiLeaks, qui a été une des plus grandes bombes, on parle des Panama Papers également, on pourrait parler des Pentagon Papers, bref, toutes ces choses-là qui ont été cherchées sous le couvert de l'anonymat ou qui ont été cherchées sous le couvert des whistleblowers, bref, des lanceurs d'alerte, ne pourraient pas être diffusées sur Facebook ou sur Twitter selon leur loi qu'ils ont, selon leur règlement qu'ils ont tout d'un coup sorti de leur chapeau lorsqu'on a eu cette nouvelle du New York Post sur Hunter Biden. Alors, c'est de quoi de oui? Ma foi, très intéressant sur où qu'on s'en va présentement. Je sais que dans ma dernière émission avec l'heure informatique, on avait parlé avec Jess Fafarteret, mon collègue de Radio XYZ également, de ce phénomène-là que les médias sociaux deviennent de plus en plus gros qu'on ne peut plus nécessairement les juger comme étant des entreprises privées, mais qu'il faudrait également les juger comme étant des parts entières de nos écosystèmes sociétales. Alors, ce qui veut dire que la liberté d'expression serait également attribuable sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont tellement rendus gros que si ces réseaux-là se mettent à couper un message, bon, on pourrait les accuser d'essayer d'empêcher une voix de la société de s'exprimer. Bref, on va en parler un petit peu plus tard de quelle voix Facebook semble prioriser, mais c'est une question, c'est un questionnement qu'on va devoir se poser, même qu'on se pose présentement et qui va devoir faire du chemin dans la tête de nos législateurs parce qu'il faudra entourer ce que Facebook et Twitter, ce que les grands réseaux sociaux peuvent ou ne peuvent pas bloquer, même si cela serait à l'encontre de leurs idéaux politiques. Alors, de notre côté, bon, on s'en va en musique. On va aller écouter un triplé musical, Fontaine D.C., un groupe d'Irlande, du post-punk s'en vient avec Television Screen. Sinon, on a aussi Rudy Bernard avec Le Garçon Divisé. Mais à l'instant, on va aller écouter Thick Glasses avec la chanson Doggo. Tout ça et encore plus à devant vos écrans sur les ondes du CFAK 88.3.
murmurera fragment de ta beauté fantasmée.
Television screen.
devant vos écrans, toujours avec Éric Laverdure. J'espère que vous allez toujours bien et merci de m'écouter pour de vrai. C'est très thérapeutique de faire cette émission-là et de vous parler un peu de tout ce que j'apprends, ce que mon TDA, en fait, me force un peu à aller lire à gauche et à droite sur tout et n'importe quoi. Et bien, souvent, c'est sur des questions de technologie et d'informatique. Alors, merci d'être là. Alors, prochain sujet. Vous avez sûrement déjà entendu ces critiques de Facebook. En fait, je viens d'en faire dans le dernier segment, que c'était une place de gauchiste qui crée des chambres d'écho, tout scanty, bref, toutes ces choses-là qu'on dit sur le réseau social. Ou le réseau social, bref. Eh bien, un dossier qui nous vient directement du Wall Street Journal au doux nom de How Mark Zuckerberg Learned Politics, comment Mark Zuckerberg a appris la politique lundi. Le 19 octobre, oui, nous fait part d'un changement à l'algorithme de Facebook qui aurait, depuis 2017, modifié le trafic que recevraient certains sites progressistes, dont le journal en ligne Mother Jones. Ce changement à l'algorithme avait été prévu pour réduire le biais que certaines personnes plus à droite trouvaient à Facebook. On le sait dans les dernières élections, en 2016, ou même dans n'importe quelle élection. En fait, les gens qui sont plus à droite, ou même les gens qui sont à gauche, bref, c'est sans tomber dans la fallacitude de la théorie du fer à cheval, bref, les groupes se ressemblent beaucoup. On a tous l'impression que notre message ne se rend pas assez aux oreilles des gens qu'on aimerait convaincre. Alors oui, c'est sûr, c'est de quoi qui est quand même assez inquiétant, surtout avec les réseaux sociaux. On se fait des amis, on se fait des groupes. Ces groupes-là, ben, ils reflètent plus nos positions politiques, ils reflètent plus nos idéaux. Alors c'est sûr que l'algorithme de Facebook va nous laisser dans ce bain-là et nous permettre de découvrir d'autres pages qui fit avec nous. Parce que oui, c'est un peu ça, les réseaux sociaux. C'est sûr que c'est un peu la même chose dans la vie. Quand on décide d'aller jouer à la ringuette et qu'on aime bien notre club de ringuette, eh bien, on va peut-être aller découvrir d'autres clubs de ringuette et jaser avec eux. Mais on reste quand même dans notre chambre d'écho qui est à nous. C'est sûr que, bon, on parlait pas tant politique dans le club de ringuette à l'époque. On parlait plus de comment voyez petit, parce que bon, comme on le sait bien, au Québec, on n'aime pas ça, parler politique en public. Eh bien, pour faire une histoire courte, alors ce changement à l'algorithme-là, en fait, a été quand même assez très mauvais économiquement pour le journal en ligne Mother Jones, qui parle d'un manque de près de 600 000 $ américains en revenus publicitaires. Alors, ça peut paraître inquiétant, mais c'est pas surprenant. Monsieur Zuckerberg, qui au début de sa carrière, on se rappelle toujours que Facebook a été créé pour comparer des filles à Harvard, a toujours démontré un apolitisme. Il a toujours dit « Je ne suis pas politique, regardez-moi, je ne peux pas être politique. » Sinon, ben, dès qu'il a commencé à être un peu plus gros, là, c'est sûr que là, on a eu des consultants qui sont venus le voir, qui ont dit « Ben là, M. Zuckerberg, vous devez avoir une vision politique et tout ça. » Lui, il s'est dit « Ben regardez, je veux être libertarien. » Libertarien, c'est fantastique. On laisse la liberté de tous et chacun et de tout ça, puis on s'associe jamais à aucun parti, sauf quand ça nous aide un peu comme la famille Paul aux États-Unis, le Ron Paul et Rand Paul, qui s'associent au Parti républicain, même s'ils sont, selon eux, des libertariens. Alors, oui, au début, M. Zuckerberg se disait libertarien, mais là, de plus en plus, on voit qu'il y a du copinage avec des gens de tous les horizons. C'est sûr qu'il parle des gens à gauche, des démocrates comme des républicains, mais on voit quand même, dans ses agissements dernièrement, un certain virage à droite de la part de M. Zuckerberg. Par exemple, on peut penser à son conseil d'administration. Il y a Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal, qui est aussi un co-financier de Elon Musk, dans Tesla et tout ça. Mais c'est aussi une personne qui est quand même très à droite. On se rappelle bien sûr aussi de... C'est lui qui a aidé un peu Hulk Hogan à faire une poursuite contre le site en ligne Gawker. Bref, c'est quelqu'un qui aime bien protéger son intimité, qui aime bien protéger ses avoirs et tout ça. Alors, c'est peut-être une influence qui peut être un peu négative pour M. Zuckerberg, mais bon, je ne suis pas sa mère, alors je ne vais pas commencer à dire qu'il tient des mauvaises personnes. Ça, c'est plus mon bien un peu idéologique. Sinon, il a bien rencontré Ben Shapiro, qui est fondateur du groupe conservateur Turning Point, qui est financé par les frères Koch, mais en fait, le frère Koch, parce que l'autre, il est décédé. Alors, un groupe qui publie souvent des images macro, des mimes un peu simplistes sur la politique américaine et sur la réalité conservatrice. Mais bref, alors il y a quelque chose de pourri au royaume de Facebook et des réseaux sociaux, un peu comme les journalistes. Je pense qu'on aime bien croire que les gens sont neutres, mais il ne faut pas oublier que même s'ils travaillent en informatique, ils ont quand même un biais idéologique. On l'a vu par exemple avec les algorithmes qui aussi peuvent parfois avoir certains biais à l'intérieur de leur création. Il y a des algorithmes de reconnaissance faciale qui ont de la misère, par exemple, à reconnaître les gens d'origine asiatique, d'origine afro-américaine. Bref, il y a des biais partout et c'est un peu utopiste de croire que les gens qui sont derrière les téléjournaux, ben, derrière les médias ou même derrière les réseaux sociaux sont blancs comme neige et vont en prendre vont prendre des choses de gauche et à droite également pour nous assurer qu'on ait une vision complète de notre monde politique. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Il ne faut pas oublier qu'au final, ces compagnies-là sont là pour faire de l'argent. Et qu'est-ce qui fait faire de l'argent? Ben, c'est d'être fâché, c'est d'être en calvaire devant notre ordinateur et de cliquer like ou d'écrire un commentaire ou de partager les nouvelles qui nous font frustrer à nos amis. Bref, c'est ça. Alors, on peut pas demander aux réseaux sociaux d'être apolitiques quand finalement leur base d'existence, oui, ce serait pour rencontrer ma tante Ginette pour savoir comment qu'elle va, mais c'est pas ça. C'est pour un lieu de diffusion, c'est un genre d'atrium public, mais qui est malheureusement un peu sur le crack et qui fait que tout le monde s'engueule à qui mieux mieux. Alors, je vous recommande la lecture de cet article-là. Comme je vous dis, c'est le Wall Street Journal avec leur article How Mark... Oui, attendez, je cherche le titre là, ici. Je l'avais. Comment? Oui, alors How Mark Zuckerberg Learned Politics. Alors, je vous recommande cette lecture-là absolument pour en savoir un peu plus sur la vision politique d'un des hommes les plus puissants au monde. Alors, on vient de parler de Facebook. Parlons d'un autre géant de l'informatique et de la technologie. On va parler de Google aujourd'hui. Et Google, qui est un peu dans le trouble, oui, mais sûrement que le commun des mortels s'en fout un peu de qu'est-ce qui se passe. Alors, êtes-vous du genre à supprimer vos cookies souvent? Êtes-vous du genre à dire, hey, je vais supprimer mes cookies et pas supprimer les biscuits de votre armoire, mais vraiment supprimer les petits pisteurs qu'il y a dans vos ordinateurs. Alors, ces petits pisteurs-là, ils peuvent savoir, par exemple, où est-ce que vous allez sur Internet, quelles sont vos navigations pour pouvoir mieux vous référer de la pub selon vos utilisations. Alors, il semblerait que si vous supprimez vos cookies à partir de Chrome, ce dernier n'effacera pas les données émanant de sites de Google, surtout google.com et YouTube. C'est le programmeur Jeff Johnson du blog labcatsoftware.com qui a fait la découverte capture d'écran à l'appui. Ce dernier utilisait la fonction de Chrome qui lui permet de supprimer tous les cookies lorsqu'il ferme son navigateur. Ce dernier a eu toute une surprise en constatant que les sites propriétés de Google n'étaient pas tout à fait supprimés de son ordinateur. Alors, selon Google, ce problème ne serait qu'un petit bug qui sera bientôt réparé. Cela nous rapporte encore, oui, un peu comme je l'ai dit avec Facebook, un certain monopole que ces sites-là ont et que... Ils instaurent souvent des règlements, des lois, bref, des choses et qu'ils ne respectent pas. Alors, c'est comme d'habitude, hein, qu'est-ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Ça devrait être le cas pour tout ce beau monde-là, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce qui nous emmène un peu, ce double standard-là, à vous parler, très brièvement, là, on va revenir quand ça va être vraiment la chose principale qu'on va parler dans l'actualité techno. Mais il y aura très bientôt, oui, une grande enquête, un grand procès / enquête du Congrès américain sur les pratiques antitrust de Google qui devient de plus en plus gros. Alors cela serait la plus grosse enquête à ce sujet à toucher une compagnie de services électroniques après celui de Microsoft dans les années 90. On s'en rappelle, Microsoft qui avait été attaqué de toutes parts parce qu'il fournissait de base le navigateur Internet Explorer avec son Windows. Et ça, ben, les gens étaient critiques de cela parce qu'ils disaient, ben là, vous avez le navigateur, vous avez le système d'exploitation. Est-ce que ça vous rappelle un peu ce que Google est en train de faire en ce moment? Google, avec son immense écosystème d'applications, pourrait finalement tomber dans une certaine craque des lois antitrust. Hein. Ils ont vos navigateurs, ils ont vos téléphones, ils ont des services de recherche, ils ont des services de courriel. Bref, tout ce monde-là qui est globalement concentré et qui peut-être pourrait être réduit un peu plus. Ce qui veut dire qu'on pense pas qu'on va détruire Google, mais on va au moins leur demander de soit vendre ou soit de séparer des entités ensemble pour qu'il y ait une plus grande compétitivité entre les différents organismes, oui, mais également entre les différents fournisseurs de services qui pourraient tous ensemble être en une meilleure compétition. On le voit un peu actuellement également avec le cas de Epic Games contre Apple. Epic qui demande à Apple de leur permettre de vendre des choses à partir de leur application parce que eux, Apple, ils prennent une cote. Alors, à chaque fois que tu achètes quelque chose du Apple Store dans une application, ben, ils se prennent un pourcentage de cote et là, Epic, qui sont aussi les créateurs du jeu Fortnite, ne veulent pas que Apple prenne toujours une part de leur butin pour l'achat de trucs de microtransactions là, comme des skins ou des danses. Bref, alors il y a un grand combat présentement devant les tribunaux américains et qui est quand même assez intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces grandes entreprises-là qui deviennent parfois un peu trop grosses. Ben ça, je vous en parlerai prochainement, c'est sûr, devant vos écrans. Alors, on retourne en musique avec un autre triplé musical. Joseph Edgar s'en vient avec Respirer, S'oublier. On a aussi une nouveauté de Sons avec la chanson Pray et également un vieux record de Roi Poisson. Le Roi Poisson, un des groupes, en fait, victorieux, des pourris de talent, on se rappelle, sur Musique Plus. Alors, on va l'écouter, Mon Robot, du Roi Poisson, et on revient après tout ça pour une dernière chronique à Devant vos écrans.
Mais j'aime aussi mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. Je
Je passe sur un bouton. à tout n'importe quoi que je catch à la télé. C'est à tous ces selfies qui sautent mon téléphone à chaque fois que je m'ennuie puis que je me cherche du fun. C'est à toutes ces gares qui ne me font plus un pli, ou peut-être toutes ces lumières qui effacent la nuit. C'est peut-être la météo qui me brûle la peau du dos. C'est peut-être le prix du pain, presque aussi cher que le vin. C'est peut-être le goût de l'eau, le plomb dans mon cerveau. Ou peut-être ma patrie qui a tellement, tellement trop de phobie. C'est peut-être le goût de l'eau, le plomb dans mon cerveau. Ou peut-être ma patrie qui a tellement, tellement peur des autres. Dans mon grand lit, je pourrais rester toute la journée. C'est là où c'est rendu, c'est pas ce que j'ai voulu. Mais je sais plus qu'est-ce qui se passe, dis-moi toi le sais-tu. C'est là où c'est rendu, c'est pas ce que j'ai voulu. Mais je sais plus qu'est-ce qui se passe, dis-moi toi le sais-tu. Je sais plus qu'est-ce qui se passe, ça a l'air que toi non plus. On se retrouve-tu au parc ou au coin de la rue? On ira prendre une bière, s'oublier, s'oublier. Au moins on aura fait quelque chose de notre journée. On ira prendre de l'air, respirer, respirer. Au moins on aura fait quelque chose de notre journée. Respirer, s'oublier. 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 Respirer, s'oublier.
Alors, deux derniers petits sujets pour devant vos écrans. Tout d'abord, vous êtes toujours là avec Éric Laverdure, oui, en ce beau mercredi 21 octobre 2020. On parle Internet par satellite. Et oui, alors Elon Musk, vous le savez, avec sa compagnie SpaceX, veut tous nous fournir en Internet haute vitesse. Est-ce que ce serait une technologie qui serait possible au Canada? Alors, c'est CBC qui nous confirme que oui, parce que le CRTC a autorisé SpaceX et ses satellites de fournir les Canadiens vivant hors des grands centres avec son Internet satellite. Alors, SpaceX et ses satellites-là, Starlink, c'est une technologie qui fonctionne à basse orbite. Alors, ça pourrait voir, on pourrait voir apparaître dans le ciel des satellites à moins de 550 kilomètres de la surface de la Terre. En exemple, un satellite normal qu'on voit un petit peu quand on regarde les étoiles et qu'on pense que c'est une étoile filante, c'est environ à 20 000 kilomètres de la surface. Alors, ce service pourrait, selon Elon Musk, fournir l'Internet à près de 4 à 5 % de la population mondiale qui n'ont pas accès à une bonne connexion à proximité, ce qui est quand même vrai. On peut penser, par exemple, dans le désert, on peut penser à d'autres places comme au Québec, dans le Nord, parce que nos entreprises sont trop lambineuses pour offrir l'Internet haute vitesse à tout le monde. Alors, ce serait une compagnie américaine comme Elon Musk qui viendrait faire ça. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec Elon Musk du côté de ses points de vue politiques et même de la façon qu'il gère ses entreprises, mais je pense que cela pourrait être très intéressant pour les régions un peu plus dégarnies côté services Internet. On pense au nord de la, en fait, au nord du Canada, point final. Alors, on peut penser au nord du Québec, nord de l'Ontario, nord de l'Alberta, bref, toutes ces provinces-là où il y a un manque d'Internet. On peut penser aussi à Terre-Neuve-Labrador et surtout, ben, internationalement, on peut penser à des places comme l'Afrique où ils n'ont pas nécessairement toutes les infrastructures publiques pour l'Internet, mais qui pourraient permettre à d'autres pans de la population mondiale de devenir connectés et de, qui sait, aller chialer avec nous sur Facebook. Thank you. sujet de notre émission d'aujourd'hui, le socio-financement. Vous avez peut-être vu comme moi l'article de Radio-Canada ou bien le reportage de la facture de hier qui nous parle de la désagréable expérience d'une habitante de Québec qui s'est fait avoir en bon français. Alors, cette dernière est tombée en amour avec la fameuse table Transformer Table. Vous savez, cette table qui peut passer d'une table 8 places à une table à café. Bref, c'est vraiment beautiful. C'est le rêve de tout minimaliste. Je vois ça des fois apparaître sur Facebook, puis je me dis, oh mon Dieu, ce serait-tu fantastique d'avoir cette table-là? Je pourrais tout d'un coup inviter mes 8 amis et les réduire à une table à café. Alors, c'est une table qui a la cote ces temps-ci, mais qui semblerait avoir certains pépins. Alors, premièrement, c'est un produit québécois, c'est fait à Dorval, tout ça. En fait, la dame, elle fait son achat sur le site officiel de Transformer Table. Elle dit, bon, ben, moi, je veux cette table, je vais l'acheter. C'est sûr que j'aurais préféré qu'elle soit en blanc, mais c'est correct, je vais la prendre en noir. Et là, après son achat, elle parle du manque de couleur à la personne du site internet de Transformer Table. Et cette personne-là lui dit, ben, madame, allez vous inscrire sur notre... On va annuler votre commande avec nous. Allez vous inscrire sur le Kickstarter et vous allez pouvoir avoir une table blanche quand elle sera prête. Alors, ça va peut-être être un petit peu plus longtemps, mais dès qu'on a le financement, on va les produire. Alors, c'est un peu ça, la marque de commerce de Kickstarter, hein, c'est qu'on... on peut dire un produit, on lui dit « Ah, toi, j'aime ton idée, je vais te le payer immédiatement, mais ça se peut que le produit n'est pas encore fabriqué. » Alors, il faut payer, il faut comme mettre une gageure, le montant total de la facture déjà. L'entreprise, par la suite, ramasse tout cet argent-là et le produit commence à produire le projet. Alors, parfois, c'est des projets qui ont déjà une base, qui ont déjà une entreprise qui vendent des produits. Alors là, on a quand même une bonne réputation, on se dit, bon, ça va bien aller. Mais il y a aussi parfois des petits vendeurs de Kickstarter qui finalement s'enfuient avec l'argent. Et ça, c'est arrivé très couramment dans les dernières années. En fait, plus que les socio-financements deviennent la mode, plus que le socio-financement provoque, on va dire, des victimes. C'est sûr qu'il ne faut pas mettre tout le socio-financement dans le même bain. Kickstarter, c'en est un pour des produits, mais on en a d'autres ici, comme La Ruche au Québec, qui sont, eux, pour des OBNL. Alors ça, c'est un peu plus mieux, parce que vous donnez, c'est du vrai socio-financement, c'est pas du socio-production de produits, du socio-capitalisme, on pourrait même le dire, là, si on a envie d'utiliser ce mot-là. Alors bon, la dame achète sa table sur Kickstarter, finalement, et là, c'est là que le cauchemar arrive... COVID oblige, les dates de livraison sont toujours de plus en plus repoussées. On dit à l'entreprise que là, elle n'aura pas nécessairement son argent parce qu'il n'y a pas de remboursement dans un Kickstarter. C'est vraiment as is. C'est, tu prends un risque et tu donnes de l'argent à ce producteur-là. Et qui sait, peut-être ce dernier va te faire une belle job et sinon, il va te fourrer. Hein, en bon français, on va le dire. Alors, si c'était un magasin conventionnel, elle aurait pu dire, ben moi j'annule. Mais non, c'est Kickstarter, elle n'a pas pu. Alors là, elle a eu des back and forth. Elle a parlé avec l'entreprise qui fait la Transformer Table. Heureusement qu'ils sont québécois. Elle a pu vraiment avoir un dialogue avec eux. Elles leur ont dit que malheureusement, elle ne pourra pas être remboursée. Finalement, bon, dénouement positif, la table a finalement pu à être produite et la dame est allée la chercher de Québec jusqu'à Dorval. Mais il y a des questions qui s'imposent en fait sur ces nouvelles façons en fait d'acheter. On devient presque des partenaires financiers d'une entreprise qui veut se partir sur un projet. Bref, avant, les entreprises, hein, comme on dit, le capitalisme, c'est prendre des risques. Avant, ils prenaient un risque pour produire quelque chose. Peut-être ça allait marcher, peut-être ça ne marcherait pas. Et là, c'est les gens qui achètent en avance et on espère que ça va marcher. Personnellement, je n'ai jamais eu envie de m'inscrire à un Kickstarter. J'ai des amis qui ont reçu des jeux de société 2-3 ans après la commande sur Kickstarter. Alors, ça devient quand même un peu long d'essayer d'encourager une entreprise comme ça. Mais bref, ça dépend toujours de vous et de vos besoins. Alors si vous êtes friand des nouveaux produits, vous êtes friand des nouvelles technologies, faites attention à qu'est-ce que vous achetez. Faites attention aussi, lisez sur Kickstarter, allez lire même des reviews de la compagnie pour voir si elle a une mauvaise réputation ou non, parce qu'il y en a beaucoup d'entreprises, c'est ça qu'ils font. Ils créent des faux produits, ils affichent sur Kickstarter, ils prennent votre argent et ils s'en vont avec. Et c'est facile, parce que comme Kickstarter, c'est international, ça se peut vraiment que ton produit soit fait par quelqu'un en Inde et que l'argent, elle va rester en Inde. Alors, c'est déjà tout hein, pour devant vos écrans, en espérant que vous avez aimé les sujets de l'émission, comme j'ai autant aimé l'enregistrer, la produire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook. Hein, vous me connaissez certainement. Sinon, n'hésitez pas à écrire aussi au info.cfac883commercial.ucherbourg.ca en référant devant vos écrans s'il y a des questions ou il y a quoi que ce soit pour que je puisse répondre à ces questions-là. Et sinon, ben, de notre côté, on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là devant vos écrans.